Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Campagne de dépistage des maladies non transmissibles. On en parle aujourd'hui dans votre émission avec Dr Audrey Maton, médecin généraliste, hypnothérapeute et praticienne de la biorésonance. Dr Audrey, bonjour.
Bonjour.
Elle n'est pas seule dans ce studio. Nous avons également Dr Lex Kejekija, gastro-entérologue. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 099-706-9941. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de la trêve humanitaire. C'est quoi une trêve humanitaire? Quelle est son importance? Ce sera à partir des 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Billy Landry Betou assure la mise en onde. Tati Mapoku coordonne cette émission. Feza Bongonda à la réalisation au micro. C'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui des maladies non transmissibles. Eh bien, ces maladies constituent un véritable problème de santé publique. Elles sont responsables de plus de 70% des décès à travers le monde, sans compter les douleurs chroniques et une diminution de la qualité de vie, selon les experts. Parmi ces maladies, on peut citer les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète, l'obésité, etc. À ce sujet, la Fondation Mwinda organise à Kinshasa une campagne de dépistage de ces pathologies avec une équipe de médecins venus de la Belgique. Alors, quels sont les intérêts de faire, pourquoi est-il important de faire un dépistage, un test de dépistage? On en parle avec nos invités. Docteur Audrey Maton, vous êtes médecin généraliste, hypnothérapeute et praticienne de la biorésonance. Encore une fois, bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue dans cette émission. Alors, parlez-nous des maladies non transmissibles. Pourquoi on les appelle ainsi?
Nous allons surtout nous orienter sur l'hypertension artérielle et le diabète lors de cette campagne.
Mmh. Avant de parler de la campagne, on voudrait savoir dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on entend par maladie non transmissible?
Ce sont des maladies chroniques, généralement évolutives, et qui ont des répercussions multiples, et qui doivent être prises en charge très rapidement, mais qui ne sont pas sexuellement transmissibles, ni de manière contagieuse.
Ok, et quels sont ces types de maladies? Bon, j'ai cité quelques-unes, peut-être qu'il y en a d'autres.
Nous nous concentrons sur l'hypertension et le diabète pour l'instant. Mmh. Il y a également la BPCO, les insuffisances respiratoires, les cancers, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Donc, par rapport à notre campagne, nous allons nous baser que sur les trois pathologies, en fait. Mmh. Donc, il y a deux grandes pathologies. Il y a aussi l'obésité qui est associée parce que l'obésité, il est au centre de tout. Donc, une personne obèse peut développer une hypertension, une personne obèse peut développer un diabète, par rapport à son surpoids. Donc c'est ainsi que nous nous basons plus sur cette campagne pour sensibiliser la population. Mmh. Vu les changements démographiques, vu les changements socio-économiques de personnes au niveau de notre pays, et vu qu'il y a un grand changement dans la diète de beaucoup de personnes, ce qui fait qu'on apporte plus d'énergie qu'on en perd. Ce qui fait qu'on devient obèse. Et à la longue, il y a une hypertension, il y a le diabète qui s'installe.
Mmh. Il y a aussi... Donc c'est l'obésité qui favorise ces autres maladies-là. Oui.
L'obésité est liée au centre. Il favorise ces maladies. C'est ainsi que dans notre sensibilisation, on est plus axé sur ces trois aspects des choses pour mieux gérer. Mmh. Et à ne pas oublier aussi qu'il y a un aspect héréditaire. Hein. Il a été relevé que plus le noir développe l'hypertension, plus le noir développe le diabète par rapport au code génétique.
Il y a un effet génétique qui fait que le sel est beaucoup plus important aussi et favorise l'hypertension artérielle chez la personne de race noire, plus que chez la personne de race blanche. Donc le fait de diminuer drastiquement le sel dans l'alimentation pourra permettre d'avoir des meilleurs résultats et une prévalence moins importante de l'hypertension et aussi un meilleur résultat des traitements.
Voilà. Et l'obésité est favorisée par quoi? C'est le mode de vie, c'est le style de vie actuel?
Oui, c'est le style de vie qui a tant changé. Parce que si vous revoyez un peu les années avant, vous verrez que dans les temps, le mode de vie était tout autre. On mangeait plus bio dans notre pays qu'actuellement. Donc, il y a plus des OGM dans notre nourriture quotidienne. Ce qui fait qu'il y a une accumulation d'énergie, des protéines, des mauvais cholestérol, de tout ce qu'on peut savoir, disons, de tout ce qu'on connaît au fait, qui peut enclencher ou entretenir cette obésité. Donc, une personne obèse, elle est...
La sédentarité aussi.
La sédentarité. Mmh. Il y a plus de sédentarité dans notre mode de vie actuellement que... Je donne un petit exemple. Vous allez au bureau, vous restez... scotché à votre chaise au bureau pendant plusieurs heures, donc pas d'activité sportive, ok, dans votre mode de vie, cela va vraiment favoriser l'obésité, voilà.
Puis il y a aussi la consommation trop sucrée, les jus, les sodas, qui favorisent aussi la graisse abdominale. Et cette graisse abdominale est un facteur de risque important aussi. Dans les maladies cardiovasculaires.
D'accord. Alors, la Fondation Mouinda a, disons, lancé une campagne de dépistage de ces maladies. Qu'est-ce qui a motivé cela?
Ben, ce qui a motivé cela, d'abord, c'est parce que je suis tombée sur des textes qui ont été faits à partir de l'OMS et qui montraient que l'Afrique subsaharienne n'était pas exempte de ce genre de maladie. Mais que les dépistages étaient tellement tardifs que directement on tombait sur des complications très importantes comme l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les rétinopathies diabétiques. Et il est important de faire un dépistage, mais comme les gens n'ont pas tout, c'est pas toujours la priorité première des gens de faire un dépistage, d'aller chez son médecin et de demander une prise de tension artérielle. En général, en Afrique, je pense qu'on traite d'abord l'urgence. Donc tout ce qui est infectieux, tout ce qui est symptomatique, mais que l'hypertension et le diabète passent à la trappe. Hier, par exemple, on a reçu un patient qui nous a dit ne plus avoir pris sa tension depuis au moins 10 ans. Alors qu'il avait une quarantaine d'années. Mmh. Alors que c'est quand même tout simple. Il suffit simplement de passer soit chez son médecin, ou alors s'il y a une hérédité... On peut aussi avoir un tensiomètre qui coûte, je pense, chez vous, entre 50 et 100 dollars. Et donc, essayer de prendre à répétition sa tension pour essayer d'éviter quand même toutes les complications qui sont quand même une source importante de mortalité.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Jean Dambosch, qui nous appelle de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Jean, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour aux invités. Bonjour aussi aux habitants de la province du Lualaba.
Quelle est votre question?
J'ai mes deux petites questions que je voudrais poser aux invités. La première est celle de savoir, les maladies non transmissibles, est-ce qu'elles peuvent être héréditaires? Si oui, Est-ce qu'il y a un traitement pouvant prévenir cette maladie aux autres membres de la famille? Et la deuxième question, existe-t-il un traitement pouvant prévenir les maladies non transmissibles avec nos familles pauvres ici? Comme les médecins l'ont toujours dit, le traitement demande beaucoup d'argent, mais la prévention minimise les moyens. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux questions? Je vous dis et je vous remercie.
Bien, merci. On va accueillir Thomas de Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Jeudi, bonjour. Ainsi que bonjour aux invités. Ainsi qu'à,
quelle est votre question? Quelle est votre question rapidement, Thomas?
Avant de poser quand même la question, j'aimerais un peu placer un mot là concernant l'importance de cette campagne là. Moi, j'ai énuméré, quant à moi, je pense que j'ai énuméré trois importantes buts de cette campagne là. Moi, j'ai trouvé un, il y a d'abord, on doit sensibiliser la population. C'est-à-dire, on doit informer cette équipe là de la campagne là. Il faut qu'ils puissent informer, mais aussi éduquer la population sur les maladies non transmissibles. Il faut que cette équipe-là puisse arriver quand même à sensibiliser la population. Parce que jusque-là, est-ce que la population connaisse d'abord c'est quoi une maladie transmissible, quels sont ses facteurs, quels sont ses symptômes? Je pense à cette occasion aussi, l'équipe devra quand même sensibiliser suffisamment la population. Deuxièmement, j'ai trouvé aussi qu'il faut l'étape de dépistage, comme les invités ont dit. Le dépistage doit suivre après la sensibilisation. Et troisièmement, je pense que le traitement et la prise en charge aussi des malades. Une fois qu'on est dépisté, la troisième étape qui peut être d'abord le traitement et la prise en charge des malades. Quand c'est là, j'ai une question à poser aux invités. Quels sont les types de maladies transmissibles qui sont ciblées par l'équipe de campagne qui sera mise en place d'un moment à l'autre? Quelles sont les maladies transmissibles qui sont mises en place? Parce que lors du thématique, là, vous avez cité le diabète et un certain nombre de maladies.
Oui, mais les invités ont parlé de l'hypertension, le diabète et l'obésité. Ce sont là les trois maladies prises en charge au cours de cette campagne. Merci d'avoir appelé. Pierrot Pagnin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre question, Pierrot?
Allô? Allô?
Oui, quelle est votre question, Pierrot?
Allô?
Pierrot, on vous écoute. Voilà, je pense qu'il y a des soucis.
Oui. Je disais d'abord que c'est une très bonne chose du fait que dans nos milieux urbains, nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de maladies non transmissibles. Mais moi, je m'intéresse dans des milieux ruraux où nous constatons que plus nous disons que c'est parce que nous mangeons de choses qui sont trop sucrées, de cuisine, de charcuteries, des histoires comme ça, que nous pouvons attraper l'obésité, que nous pouvons attraper des hypertensions, de diabète et autres maladies non transmissibles. Alors, qu'est-ce que ces invités peuvent nous dire concernant ceux-là qui se trouvent dans le milieu rural où ils n'ont pas de charcuterie, où ils ne consomment pas des choses trop sucrées, ils n'ont même pas le moyen pour se procurer du sucre, mais ces gens-là font aussi de telles pathologies, et vous voyez même des enfants même qui sont avec ce genre de maladies. Qu'est-ce qu'ils prévoient pour lutter contre ces maladies dans le milieu où il n'y a pas la consommation comme dans le milieu urbain? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question que je voulais poser aux invités, c'est sur base de l'obésité. Elles définissent l'obésité comme une maladie seulement non transmissible. Or, en nutrition, quand vous mangez trop et que vous développez une obésité, ça signifie aussi que vous êtes malnutri. Alors, comment ils ne peuvent pas aussi mettre la malnutrition comme dans la lutte de ceux qu'ils font? Et nous avons des contrées, des provinces où la malnutrition, c'est une endémie.
D'accord. C'est une endémie. Merci. Alors, merci beaucoup. D'accord. Merci, Pierrot. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup pour le verbe que vous m'adjugez. Ma première question, c'est par rapport à l'obésité. Je veux savoir, est-ce que le simple fait d'augmenter le poids est une obésité ou quoi? Parce que moi, quand je fus étudiant, je pesais entre 50 et 60. Aujourd'hui, j'en ai à 90, 95. Peut-on dire que je suis dans l'obésité? Parce que est-ce qu'un simple surpoids peut seulement être synonyme d'obésité? C'est ça ma question. Deuxième question, il se limite à l'hypertension. Qu'en est-il de l'hypotension? Il m'est arrivé une fois en 2018 de faire l'hypotension. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai appris les mots. C'est-à-dire lorsque la tension va en dessous de la moyenne. Et par rapport à l'hypotension, ce qui est très grave, c'est qu'il n'y a aucun signe alarmant. Je me promenais calmement, je riais et je suis tombé. Est-ce qu'ils peuvent aussi inclure dans leur lutte l'hypotension qui est aussi fréquent mais que les gens négligent? Troisième question en parlant du diabète. Est-ce que ils peuvent nous indiquer les techniques pour éviter cela? Parce que la fois dernière, j'étais perturbé. Je suis allé dans un hôpital parce que j'avais des vertiges. Mon taux de glycémie était élevé. Je vais dans un autre, c'était stable. Je vais dans mon hôpital habituel, c'était stable. Je sais pas quel est le test le plus indiqué. Parce que là, je me perturbe. Trois résultats, trois hôpitaux différents. Quel est le test le plus indiqué pour être sûr de son taux de glycémie? Quatrième question. Nous avons assisté, parce que chez nous, au Barreau, chaque année, il y a des formations continues. Et cette année, on a inclus la santé. On a vu avec un cardiologue, c'est un vieux de 85 ans, j'oublie son nom. Il est vers Shaoum Balaba. Alors, il nous a dit que l'hypotension et l'hypertension peuvent conduire à l'AVC. Est-ce que c'est vrai, monsieur le médecin? Si oui, comment pouvons-nous gérer pour ne pas tomber dans l'AVC? Voici mes quatre questions, monsieur Jody, pour ce jeu qui est intéressant pour la santé de l'avocat que je suis et des autres domaines.
Bien, merci beaucoup Maître Omar Kigalo. Bien, il y a plusieurs questions. Docteur Audrey, Jean d'Amboche, il veut savoir si toutes ces maladies non transmissibles peuvent aussi sont héréditaires. Voilà, il veut savoir si ces maladies sont héréditaires et quels sont les modes de prévention.
Voilà, oui, elles sont héréditaires pour une certaine partie, mais il y a aussi ce qui est important dans la prévention, c'est de savoir qu'il y a moyen de modifier tout cela par un régime qui est apparu aux environs des années 1960 aux États-Unis et qui s'appelle le DASH, c'est-à-dire que c'est une approche diététique pour stopper l'hypertension artérielle. Stopper l'hypertension artérielle ou prévenir son arrivée. Donc ce régime, évidemment, vise à avoir un IMC entre 18,5 et 24,5, ça veut dire que l'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. Donc, il faudrait viser d'avoir un IMC.
C'est l'indice de la masse corporelle. Comme masse corporelle, ok.
Et donc, ce régime préconise justement une alimentation saine et variée, naturelle, riche en fruits et en légumes. Mmh. Et ce qui est très important, c'est pauvre en sodium. Donc, il faut réduire drastiquement les sources de sel, soit sous forme, donc en réduisant les cubes aromagie, par exemple, oui. En réduisant l'aromagie, en réduisant, par exemple, les poissons salés. Donc, toutes ces sources de sel devraient être réduites au maximum, en changeant les comportements alimentaires. Bien sûr que parfois, dans l'inconscient collectif, le sel est aussi une source vitale pour les gens. Mmh. Et c'est une habitude culturelle, peut-être aussi, et environnementale, d'augmenter les quantités de sel. Et finalement, le palais s'habitue à ce goût-là. Mmh. Depuis
donc
l'enfance.
Donc, on peut dire que toutes ces maladies sont liées à l'alimentation.
À l'alimentation. Mmh. Et donc, le principe de ce régime, ce serait d'avoir une alimentation saine, pauvre en sel et riche en potassium. Parce que les sources de potassium viennent tamponner le sel qu'on va consommer. Mmh. Donc le potassium se trouve principalement dans les légumes à feuilles vertes, que vous avez en quantité très importante ici, comme l'oseille, les feuilles de manioc, les épinards, les amarandes, mais aussi dans les tubercules. Donc les patates douces, vous l'avez aussi dans les tubercules de manioc, et toutes ces sources de potassium toutes ces sources de potassium vont venir compenser le sel qu'on va consommer malgré nous, même dans la viande.
D'accord. Alors, docteur Lex, il y a une autre question, celle de Thomas qui dit pourquoi ne pas intensifier la sensibilisation, informer la population, éduquer la population sur ces maladies non transmissibles, particulièrement sur l'hypertension, le diabète et l'obésité.
Oui, exactement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une première phase, c'est celle que nous venons d'entamer dans le cadre de notre association Mwinda. Nous sommes en train de sensibiliser, raison pour laquelle nous nous sommes présentés devant les auditeurs de la radio Okapi pour essayer de passer le message afin que le message touche un bon nombre de personnes pour adhérer à ces programmes, en fait.
Et déjà, vous avez commencé les dépistages
Le dépistage a commencé depuis le lundi. Nous sommes à la clinique NL sur le boulevard du 30 juin, en face de la chancellerie des ordres nationaux, au bâtiment Sanache, donc au premier niveau. C'est là où nous sommes. Donc, on va vous communiquer le numéro de contact pour ceux qui vont s'enregistrer. Il y a le 082-76-31-622. C'est le numéro de contact pour tous ceux qui voudront s'enregistrer.
Passer pour le dépistage.
Voilà, pour le dépistage.
D'accord.
Pour le dépistage.
Et Pierrot de Lubumbashi veut savoir, on dit que ces maladies, l'hypertension, le diabète, l'obésité, c'est beaucoup plus dans les centres urbains. Mais comment se fait-il aussi que dans les milieux ruraux, on enregistre ces cas?
Exactement. Nous avons souligné l'hérédité. Nous avons parlé, nous avons dit qu'il y a l'hérédité qui est l'une des facteurs qui fait en sorte que les personnes puissent développer. Supposons qu'une personne vivant dans les milieux ruraux, par l'hérédité, disons, du père au fils, donc le père a eu l'hypertension, automatiquement le fils est exposé à développer l'hypertension. D'où la raison de notre campagne, en fait. Donc, notre campagne se base du fait que nous voulons casser, ces cheminements des choses, si je peux le dire ainsi. Donc, prévenir. Comme on dit en médecine, que la meilleure médecine, c'est la prévention. Donc, pour prévenir, il faut passer, s'enregistrer, et puis voilà.
Et le dépistage permet aussi de détecter à temps.
Exactement.
Certaines pathologies au lieu de venir à un stade avancé de la maladie.
Exactement, parce que ce qui tue avec ces pathologies non transmissibles que nous venons d'évoquer, ce sont les complications, en fait. Parce que les complications de l'hypertension touchent presque tous les organes. Ça va toucher les yeux, au niveau des yeux on aura une rétinopathie hypertensive, au niveau du cerveau il y aura un accident vasculaire cérébral qui va s'installer. Au niveau des reins, il y a une insuffisance rénale qui peut s'installer. Donc, ça peut toucher presque tous les organes. Et avec le diabète, même, au niveau des pieds, on peut avoir les pieds diabétiques. On peut avoir une rétinopathie diabétique. On peut avoir, il y a plusieurs complications. Ce qui fait que les personnes ou les gens intéressés doivent consulter très tôt.
D'accord. Docteur Audrey.
Ce qui est aussi très important, c'est de connaître les symptômes, par exemple, de l'hypertension artérielle.
Oui.
Ça veut dire que, par exemple, face à des maux de tête intenses, ou des douleurs thoraciques, ou des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, une vision floue, de l'anxiété, des difficultés respiratoires, parfois la nausée qui ne cède pas, il faut être attentif, justement, que ça peut être la manifestation d'une hypertension artérielle. Face à des maux de tête qu'on essaye de soulager par du paracétamol et qu'on n'a pas de solution,
ça ne marche pas, oui.
Oui, il vaut mieux aller consulter et essayer de trouver quelqu'un pour prendre sa tension artérielle. C'est capital.
Bien. Une autre préoccupation de Pierrot, il dit, vous avez parlé aussi de l'obésité, mais il dit, est-ce que l'obésité peut être aussi classée parmi comme un effet de la malnutrition?
Oui, exactement. Actuellement, l'obésité est classée parmi la malnutrition, au fait. Et les termes que nous préférons utiliser, c'est plus le contraire de ce qu'il a évoqué. Mais c'est classé parmi les malnutris, donc.
Donc, même une personne obèse doit se faire dépister.
Elle doit se faire dépister.
En tout cas, un déséquilibre de nutrition. Peut-être pas de la malnutrition,
mais un déséquilibre
de nutrition.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs avant de reprendre aux autres questions. Esokoa est à Kindu, Justin Kalabia à Bunia. Esokoa, bonjour et quelle est votre question?
bonjour, bonjour aussi donc à vos invités à la radio. Merci d'abord de m'avoir choisi donc pour intervenir à la radio. Je voulais donc demander donc à vos invités des questions. La première question, est-ce que cette campagne va durer combien de mois, combien d'années, et ça va seulement se limiter donc à Kinshasa? Parce que beaucoup de campagnes commencent seulement à Kinshasa. Et beaucoup aussi de campagnes, surtout seulement à la radio. Mais sur le plan physique, on ne le voit pas. La deuxième question. Messieurs les invités, que vous êtes à la radio, moi je suis souffrant, je suis à la maison. J'ai déjà fait tous les examens à la radio, partout, mais je ne trouve pas donc la vie. Je ne sais pas si ça sera ma vie ou ce sera la mort. Je me sens mal à la poitrine, l'estomac là. Je ne sais pas si l'estomac est chronique ou pas. J'ai déjà acheté beaucoup de médicaments, mais je ne trouve pas donc la vie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais aider les invités à la radio. Les estomacs là sont chroniques ou pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que je trouve ma vie?
Bon. Merci d'avoir appelé. Je pense qu'il est important d'aller consulter et Sokoa. Justin Kalabia, vous êtes à Bounia. Bonjour. Justin, bonjour. Vous êtes à Bounia. Quelle est votre question? Il n'est pas là. Ismaël Mumpoy de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kacham. Bonjour à tous les invités.
On vous écoute.
Oui, je comprends aujourd'hui, il y a certaines maladies qui pouvaient être prises en considération, mais malheureusement, que si vous prenez l'hypertension artérielle, vous prenez l'obésité, vous prenez la prostatite, mais ces maladies dont je viens de citer ne sont pas prises en compte comme d'autres maladies. Aujourd'hui, il se fait que l'Organisation mondiale de la santé se focalise seulement sur VIH-SIDA, la tuberculose. Et pourtant, les maladies dont je viens de citer ici, ce sont des maladies qui préoccupent les gens, telles qu'on vient de parler de l'estomac. On pouvait faire quelque chose pour que cette maladie soit prise en charge, comme on prend le VIH-SIDA, la tuberculose et consorts. Mais qu'est-ce qui empêche pourvu que cette maladie ne soit pas prise en charge gratuitement par l'Organisation mondiale de la santé? Il se peut aujourd'hui qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies commerciales. Vous pouvez prendre le paludisme, les consorts. On dit, si on va lutter contre cette maladie, je pense que les infirmiers, les hôpitaux ne doivent pas traiter comme ils se doivent et ne doivent gagner rien. Mais à mon humble avis, je pense que il a fallu assez qu'il y ait une conscience humaine pour la consultation. Mais cette consultation dans la plupart des hôpitaux tels que dans des centres-villes, Kinshasa, Kisangani, partout là, bon, ça coûte cher. Quand une personne dit « va consulter », il pense que ça va coûter cher. Qu'est-ce que j'ai pour aller donner cet argent-là? Prenez l'estomac. C'est une maladie qui complique. L'hypertension artérielle. Mais la plupart des personnes, tu veux même vous, j'ai suivi l'invité qui dit, il y a presque 10 ans, une personne qui dit 10 ans, il n'a jamais été consulté. Chez moi, si vous demandez à une personne, quelle est votre hypertension artérielle? Parce que quelqu'un peut aller, parce que l'hypertension artérielle, c'est une augmentation de la pression sanguine qui dit maintenant que soit par l'exercice musculaire, où il y a l'augmentation de la tension. Une personne peut faire un peu ses physiques, aller aussi à la consultation, et qu'on dit que tu détectais qu'il y a l'hypertendie. Et pourtant, c'est par l'exercice musculaire où il a eu l'augmentation de cette tension. Mais les gens pouvaient avoir un peu la conscience de où, combien de temps on peut déclarer une personne qu'il est atteinte de l'hypertension artérielle. Parce que c'est un peu compliqué. Les gens ne connaissent pas leur état sérologique et physique de leur maladie. Il a fallu créer une consultation à répétition où la prise en charge de cette maladie par l'Organisation mondiale est très nécessaire pour vivre, pour qu'on sache qui souffre de cette maladie. Je parle aussi de la prostatite. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes mères et souffrent. Ils n'ont pas une solution.
Bon, pourquoi aujourd'hui, cette aujourd'hui, maladie, une personne Ismaël. Est oui, mais aujourd'hui, on parle seulement de l'hypertension, on parle du diabète et de l'obésité. Et là, vous parlez d'autre chose. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci. Docteur Audrey, votre réaction?
Ben, je comprends bien que c'est une demande très importante, mais je tiens à préciser que notre association, donc notre ASBL Mouinda, est un bébé ASBL. Elle a vu le jour en 2023 en Belgique. Mmh. Et c'est notre premier voyage, donc notre première campagne. Elle va se dérouler pendant 3 jours. Mais déjà, je peux vous signaler
qu'elle se clôture demain, mercredi.
Elle se clôture demain. Mais c'était pour prendre un peu la température. Mais nous reviendrons en octobre.
Et comment ça se déroule depuis le lundi, les malades?
Ça se passe bien, les malades viennent et on les dépiste. Et je pense qu'on répond à leurs besoins. Mais on ne peut pas couvrir tous les problèmes d'un pays aussi vaste. On ne sera certes qu'une toute petite goutte dans un océan de misère, probablement, d'après ce que j'entends. Mais moi, je reviendrai sur la citation du Mahatma Gandhi qui dit « Soyons le changement que nous attendons de voir dans le monde ». Et je pense qu'à notre petite échelle, petit à petit, nous allons peut-être déplacer des montagnes.
D'accord. Bien. Docteur Lex, il y a un maître Marc Igalo qui veut savoir, le fait d'augmenter de poids, de gagner un peu plus de poids, 90-95, est-ce que c'est déjà de l'obésité ou pas?
Bon, au fait, il y a des échelles qu'il faudrait connaître. Hein. Il y a l'IMC que le docteur Maton a relevé tout à l'heure, l'indice de masse corporelle. Il y a des tranches qu'il faudrait savoir. Donc, quand on est de 18 à pratiquement 24, on est dans la tranche normale, au fait. Quand on est au-delà des 24 jusqu'à 39, on est dans les surpoids.
Jusqu'à 30,
on est dans les surpoids.
Au-delà de 30, c'est l'obésité, oui.
Voilà. Au-delà des 30, c'est l'obésité. Donc, Omar est obligé d'aller voir son médecin ou venir nous voir, ok. Par là, nous allons prendre tous les paramètres, entre autres la taille et le poids, et nous allons calculer l'IMC. Mmh. Et sur base de cet IMC, il sera classifié. On saura s'il est dans l'obésité ou il est dans le surpoids. D'où l'intérêt de cette campagne, que je voulais juste signaler que Dr Maton est là, justement pour l'approche nouvelle que nous avons, qu'elle a amenée, qui n'existe presque pas dans notre pays.
C'est quelle approche?
La méthode ligniforme, en fait. Elle a parlé du DASH, elle va parler aussi de la méthode ligniforme. Donc, c'est une méthode de prise en charge non médicamenteuse. Donc, on n'aura pas besoin de médicaments. On aura besoin que des protéines synthétiques et plusieurs autres choses. Hein.
D'accord.
Voilà.
Docteur Maton, parlez-nous de cette nouvelle méthode.
Oui, mais avant ça, je voudrais quand même préciser qu'une une simple perte de poids, enfin, qui n'est pas toujours simple, mais une simple perte de poids de 10% du poids de départ, parfois peut permettre de réduire non seulement l'hémoglobine glycée pour le diabète, et aussi l'hypertension. Donc, si vous perdez 10% de votre poids de départ au moment du diagnostic, si la tension n'est pas symptomatique, si par exemple elle est aux environs de 15-9, on peut se permettre de perdre les 10% du poids de départ et de recontrôler la tension. En général, elle va se normaliser. Autre chose, et je réponds à une autre...
C'est pas beaucoup perdre 10 poids, du coup.
10% du poids de départ.
Ah, 10%,
donc,
ok.
Si vous faites 100 kilos, il faut perdre 10 kilos. Évidemment qu'il faut qu'on analyse alors les habitudes alimentaires de la personne et qu'on se penche avec elle ce qui est raisonnable de lui proposer. C'est un partenariat, c'est une relation thérapeutique où on donne le modus operandi dans la bienveillance et dans le respect du corps et des habitudes alimentaires de la personne. Donc, je voulais revenir aussi sur une autre question avec la personne qui demandait comment savoir si on est diabétique ou pas. Le meilleur moyen de savoir si on est diabétique, c'est de faire une hémoglobine glycée. L'hémoglobine glycée est une valeur qui s'exprime en pourcent. Et donc, il faut essayer d'être en dessous de 6,5%. Et ça nous donne le reflet du sucre sur 3 mois. Donc, ça permet là de dire que la personne est intolérante glucidique ou diabétique. Tandis que la glycémie à jeun ou la glycémie aléatoire n'est pas suffisante pour diagnostiquer, je pense, un diabète.
D'accord. Il a parlé aussi de l'hypotension. Est-ce que c'est parmi... souvent, on parle de l'hyper, on ne parle pas... D'après lui, on ne parle pas assez de l'hypotension. Est-ce que lors de cette campagne, du dépistage, vous allez aussi...
Moi, je pense que quand il y a une hypotension, il faut absolument aller faire un examen chez un cardiologue pour avoir une mise au point complète, de voir si ce n'est pas un trouble du rythme ou autre chose qui est en cause. ou si simplement ça peut être aussi essentiel, il n'y a pas de cause. Mmh. Donc ça, c'est quand même, voilà, il faut avoir recours aux spécialistes sur la place, et c'est pas les spécialistes qui manquent. D'accord. Nous sommes plus dans la sensibilisation, l'éducation, mais je le répète, il faut nous laisser le temps de nous implanter aussi dans ce domaine.
Parce que c'est la première activité de la Fondation Mounda.
Oui. C'est un bébé, hein.
C'est un bébé. Voilà, il y a une autre préoccupation de Maître Omar qui veut savoir est-ce que l'hypertension et l'hypotension peuvent conduire un sujet à développer un AVC, docteur Lex.
Oui, l'hypertension peut conduire à développer un AVC. Par contre, l'hypotension, c'est le contraire. Donc, l'hypotension, à mon avis, ne peut pas conduire à développer un AVC. Alors, l'hypertension conduira à l'AVC de quelle manière? Parce qu'il y a déjà un changement de rythme. Il y a une dynamique qui est différente, ok, du battement du cœur normal, ce qui fait que il y a une certaine élévation de la tension. Avec cette élévation de la tension, au niveau du cerveau, il y a des petites vénules ou des petites artères qui irriguent les cerveaux, en fait. Alors, avec une forte pression, les diabètes comme antécédent morbide, par exemple, l'obésité, il y a une certaine fragilisation de vaisseaux, ce qui peut faire en sorte que le vaisseau au niveau du cerveau puisse éclater. Et là, nous aurons un accident vasculaire cérébral hémorragique. Donc, un vaisseau qui éclate au niveau cérébral. Mmh. Alors, quand il y a une formation des cailloux qui va migrer jusqu'au niveau de certaines artères au niveau du cerveau et bouche une partie, il y aura une apoxie cérébrale qui va s'installer. Ce qui veut dire que une partie du cerveau ne sera pas nourrie par le sang, parce que ce qu'il faudrait savoir est que le sang est vecteur, ok, de l'oxygène et aussi des nutriments qui vont aller nourrir les parties, disons.
En quelque sorte, aller irriguer.
Voilà.
C'est une sorte d'irrigation.
Exactement.
D'accord. Docteur Audrey, parlez-nous de cette méthode appelée ligniforme. C'est quoi et comment elle fonctionne?
Donc, la méthode ligniforme, c'est en fait une diète hyperprotéinée. Et c'est un régime qui est typiquement hypocalorique, où on va drastiquement réduire la source de sucre et de graisse pour charger l'organisme en protéines. Comme certains organes comme le cerveau doit absolument utiliser du glucose pour fonctionner, le foie, au niveau du foie, il va se passer un processus tout à fait particulier qu'on appelle la cétogenèse. Ça veut dire que le foie va aller chercher au bout de 48 heures les graisses qui ont été stockées, notamment dans le ventre, pour venir produire du nouveau sucre en fait. Ça s'appelle la néoglucogenèse, la nouvelle formation de sucre à partir des graisses stockées dans le corps. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui va être très efficace, très rapide et qu'on peut très cibler. Si par exemple la personne n'a pas un IMC catastrophique, qu'elle se situe aux environs de 27-28, on peut lui proposer ce type de diète. Et on peut la cibler, par exemple, sur la perte du ventre pour avoir un ventre plat. Parce que je pense que c'est une préoccupation très importante aussi, ici, d'avoir le ventre plat. Donc, voilà. Alors, c'est une diète qui est simple. Quand elle est menée à bien, ça veut dire quand on respecte tous les paliers. Parce qu'il y a une phase très rapide qui est constituée de deux phases. Une phase très active et une phase moins active. Et ces deux phases permettent de perdre 80% du poids. Et puis après, on réintroduit les aliments dangereux contenant du sucre. Donc, on réintroduit les fruits, les laitages, le pain, les féculents, pour finalement arriver à la septième phase où on aura une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée qui devrait se rapprocher au maximum de l'autre régime que je vous ai présenté, donc le DASH, pour lutter contre l'hypertension.
Et ça prend combien de temps, cette nouvelle méthode ligniforme?
Ça dépend du poids à perdre. Ça dépend du poids à perdre. Okay. Ça peut aller très vite. Mmh. Hier, on a vu une dame qui a 4 kilos à perdre. Vous pensez bien qu'en un mois, c'est fini. Mais l'important, c'est de respecter les stades de réintroduction progressive des aliments dits dangereux après ce type de diète. Mmh. Évidemment, je vais déjà contrer une question, c'est que cette diète coûte assez cher. C'est pas une diète qui peut être faite par tout le monde. Ça, c'est un petit bémol. Maintenant, les gens qui n'ont pas les moyens de se permettre ce genre de perte de poids, moi, je leur conseillerais de faire le DASH correctement, bien adapté à leur situation.
Mmh. Pouvez-vous rappeler, les DASH, c'est quoi ?
Ce sont des approches diététiques qui permettent de stopper l'hypertension artérielle. C'est un régime qui ressemble très fort au régime méditerranéen.
D'accord. On va accueillir Dr Anissé Kipassa depuis Kikuit. Bonjour docteur, et quelle est votre préoccupation ?
Bonjour Jordi, bonjour à l'équipe de la Fondation Mouinda, docteur Bui et toute son équipe. Merci infiniment pour cette initiative. Mais je voulais, avant de poser juste deux ou trois petites questions. Docteur Audry et toute l'équipe, vous avez dit des choses très, très importantes. J'ai suivi les gastro-entérologues, je crois qu'il a dit que la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. C'est vrai. Et même on l'a dit, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Mais la culture congolaise, notre culture, nous nous battons pour ça. Les gens, docteur Audry l'a dit, on consulte quand il y a des urgences, quand il y a un problème, quand il y a des symptômes. Et même pour les véhicules, on va à l'entretien. L'entretien, la maintenance, c'est pas dans notre culture. Mais s'il vous plaît, regardez, par exemple, vous avez amené un bon programme avec les DASH. Est-ce que les DASH tiendra compte aussi de la ZEBEN, la zone de bon état nutritionnel? Vous avez parlé de l'indice de masse corporelle. Il y a très peu de centres de diabétiques. Je suis responsable de centres de diabétiques. Et il prétendit ici, il y a très peu de médecins ou de prestataires de santé qui s'occupent de l'indice de masse corporelle ou de la ZEBEN pour leurs consultations en routine. C'est pourquoi je voudrais vous demander, l'activité, l'initiative que vous avez prise, docteur Audry, je sais, vous avez dit que vous ne saurez pas résoudre le problème de tout un pays, mais pour une très bonne démarche avec beaucoup de succès, il y a toujours le premier pas. Vous avez fait le premier pas. Mais ne prenez pas déjà cette attitude-là pour dire nous ne serons pas. Parce que nous vous attendons dans les milieux ruraux. Docteur Kiège, docteur Audry, nous vous attendons. Parce que dans les milieux ruraux, les besoins sont énormes, l'arsenal humain est disponible. Nous sommes disponibles à vous accueillir pour qu'on fasse la même activité, même pour le docu. Tout à l'heure, avant que vous n'interveniez, il y a quelqu'un dans la radio Capi, tout à l'heure là qui a parlé, de docu, parce que les cancers de col chez nous, c'est le premier avant les cancers de sein. S'il vous plaît, pensez au milieu rural, si vous n'avez pas encore pensé à ça. Est-ce qu'il y a moyen aussi d'établir un partenariat avec vous? Vous revenez en octobre, mais avant octobre, est-ce qu'il y a moyen d'établir un partenariat avec la Fondation pour aider les diabétiques et les hypertendus? Je vous jure, je viens de voir un ami qui se promène avec une pression artérielle de 200 sur 120. Il dit, je ne sens rien, docteur, il ne faut pas m'embêter. Si tu as besoin d'argent, va chercher les malades. Moi, je ne suis pas malade. Il a une pression artérielle de 200 sur 120 mm de mercure. Je lui dis, mais tu es un cercueil ambulant. Il dit, non, vous voulez seulement chercher l'argent. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen d'établir un partenariat avec vous? Est-ce qu'il y a moyen de penser, même si vous venez juste pour un, deux jours, ça nous arrangera pour continuer cette initiative, très belle initiative que vous avez là.
Bien, merci docteur Anissé. On va accueillir Justin Kalabia de Bounia. Bonjour Justin, quelle est votre question?
Bonjour monsieur Jody, bonjour aussi au docteur.
Oui, quelle est votre question?
Allô, Oui, monsieur Jody. En tout cas, j'ai trois questions à la thématique de monsieur Jody, parce que je suis très intéressé de la pertinence et aussi la défense de notre invité. Il parle de ses projets. Vous voyez qu'ici à l'Est, nous avons beaucoup de diabétiques, et alors que nous sommes aussi dans un milieu là où il y a beaucoup de conflits armés, monsieur Jody. Alors qu'il y a même des gens qui tombent pêle-mêle avec des tensions lorsqu'ils écoutent des coups de balle. Alors, la première question, de savoir, c'est est-ce que le projet est limité seulement à Kinshasa ou bien quelles sont les provinces pilotes que ce projet préfère? La deuxième question, comme mon prédécesseur a dit, est-ce que ce projet s'arrêtera parfois soit ici à Bunia, à Goma ou c'est seulement à Kinshasa? Alors que nous avons des milliers d'euros. Vous partez à Ahou, vous partez à Mahagi, vous partez à Komanda, vous partez au fin fond même de la République, mais aujourd'hui à Walikal y compris. Alors que quand on parle seulement de Kinshasa, ça nous inquiète. Est-ce que le projet prendra seulement la ville province de Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur Jody, et bonne fin de temps.
Merci. Docteur Lex, vous avez la parole.
Bon, en fait, nous l'avons souligné que ce n'était qu'une première étape. Il y aura une deuxième édition de campagne de sensibilisation.
Au mois d'octobre, vous allez revenir.
Nous allons revenir, bien sûr, pour Kinshasa, mais nous allons voir comment étendre notre action sur d'autres provinces. Donc, on va s'intéresser sur Lubumbashi, Goma, et puis on verra. Donc, il y a toute une organisation au niveau de l'ASBL Mwinda. Et on va en parler, voir comment étendre notre action. Voilà.
D'accord. Et puis, oui, docteur.
Je voulais aussi dire que je suis très émue et très sensible à la détresse que j'entends là aujourd'hui. Et que pour ma part, je m'engage vraiment à répondre à la demande avec ce qui m'est possible. Mais ça va me donner, ce que j'entends aujourd'hui va me donner le courage de dépasser mes propres limites. Et je vais faire mon possible.
Et vous avez suivi la demande de docteur
Anissé
qui justement, la demande de partenariat.
J'aimerais bien avoir ses coordonnées et rentrer en contact avec lui avant de repartir vendredi.
D'accord. Bien, alors un mot par rapport à la campagne de dépistage. Le dernier jour, c'est demain déjà, les derniers jours.
Oui, demain c'est les derniers jours. Nous appelons tout le monde.
Mais c'est pas fini, hein.
C'est pas fini. C'est pas fini. Les coordonnées sont là. Qu'ils entrent en contact avec les personnes habilitées pour prendre l'air déshydraté en considération. Et voilà, demain, nous sommes là. Nous les attendons.
Oui, même si ça s'arrête, mais l'enregistrement des malades va se poursuivre, docteur Martin.
Même si ça s'arrête, l'enregistrement continue. Nous sommes là. Docteur Martin va repartir pour la Belgique et nous allons assurer les affaires courantes ici.
D'accord.
Mais je tiens à vous dire aussi que jeudi et vendredi, l'association Mwinda va s'associer à l'ASBL ESO du docteur Yuma. Et je participerai là-bas aussi à un dépistage hypertension et diabète. Donc, s'il y a des besoins, vous pouvez aussi aller à l'EMBA, sans problème.
Sans problème. Et comment ça va se passer au mois d'octobre? Il y aura une deuxième phase?
La deuxième phase, on va essayer de la faire peut-être en communiquant davantage. Parce que là, c'est vrai qu'on a été un peu pris de court. Moi, je suis arrivée ici, je n'avais que très peu de contacts. Et je remercie la radio de m'avoir invitée, c'est très gentil. Et on va essayer de faire ça mieux. Mieux. On va dire qu'ici, c'était le brouillon.
D'accord. Alors, docteur Lex, après le dépistage, comment se présente, quelle sera la suite?
Bon, il y aura une continuité de la prise en charge. Donc, il y aura des contacts qui vont s'établir avec nos patients. Avec docteur Maton, le travail va se faire via le canal de communication, donc par téléphone en fait. Donc il y aura un suivi de ces malades jusqu'à la stabilisation de leur ou jusqu'à l'atteinte des objectifs fixés dans notre prise en charge. Donc nous sommes là, docteur Maton est là. Le numéro des contacts sera mis à la disposition de.
C'est toujours mieux de rappeler les contacts, tout ça.
Alors, les contacts, c'est les 082-76-31-622. Donc, ils auront beaucoup d'informations.
D'accord. Voilà. Docteur Martin.
Oui, je tiens à dire aussi que quand je prends quelqu'un en charge pour une réduction du poids, son objectif devient mon objectif. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses à réadapter, dans la communication limpide, on arrive souvent à faire des merveilles. Donc, la personne n'est pas abandonnée. Avec tous les systèmes qu'on a aujourd'hui, avec WhatsApp, Messenger, il n'y a vraiment aucun problème. Aucun problème de se suivre. Et moi, j'accompagne en général les patients de manière très maternelle, main dans la main, jusqu'au moment où ils atteignent leur objectif.
Bien, merci beaucoup docteur Audrey Maton, médecin généraliste, hypothérapeute et praticienne de la biorésonance. Et nous disons aussi merci à docteur Lei Kashikija qui est gastro-entérologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette campagne de dépistage des maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.